Monsieur Rabourdin avait couru chez le ministre. Le ministre était à la chambre. Rabourdin se rendit à la chambre des députés où il écrivit un mot au ministre. Le ministre était à la tribune occupé d'une chaude discussion. Rabourdin attendit, non pas dans la salle des conférences, mais dans la cour, et se décida, malgré le froid, à se poster devant la voiture de l'excellence afin de lui parler quand elle l'y montrait. L'huissier lui avait dit que le ministre était engagé dans une tempête soulevée par les 19 de l'extrême gauche et qu'il y avait une séance orageuse. Rabourdin se promenait dans la largeur de la cour du palais en proie à une agitation fébrile et il attendit 5 mortelles heures. À 6h30, le défilé commença, mais le chasseur du ministre vint trouver le cocher. « Et Jean, lui dit-il, monseigneur est parti avec le ministre de la guerre. Ils vont chez le roi et de là dînent ensemble. Nous irons le chercher à 10h, il y aura conseil. » Rabourdin revint à pas lents chez lui, dans un abattement facile à concevoir. Il était 7h, il eut à peine le temps de s'habiller. « Eh bien, tu es nommé, lui dit joyeusement sa femme quand il se montra dans le salon. Rabourdin leva la tête par un mouvement d'horrible mélancolie et répondit « Je crains bien de ne pas remettre les pieds au ministère. »« Quoi ?» dit sa femme, agitée d'une horrible anxiété. « Mon mémoire sur les employés court les bureaux et il m'a été impossible de joindre le ministre. » Célestine eut une vision rapide où, par un de ses éclairs infernaux, le démon lui montra le sens de sa dernière conversation avec des Lupeaulx. « Si je m'étais conduite en femme vulgaire, pensa-t-elle, nous aurions eu la place. » Elle contempla Rabourdin avec une sorte de douleur, et se fit un triste silence, et le dîner se passa dans de mutuelles méditations. « Et c'est notre mercredi, dit-elle. « Tout n'est pas perdu, ma chère Célestine, dit Rabourdin, en mettant un baiser sur le front de sa femme. « Peut-être pourrai-je parler demain matin au ministre, et tout s'expliquera. » Sébastien a passé hier la nuit, toutes les copies sont achevées et collationnées. Je prierai le ministre de me lire en mettant tout sur son bureau. La prière m'aidera. L'on ne condamne jamais un homme sans l'entendre. Je suis curieuse de savoir si M. des Lupeaulx viendra nous voir aujourd'hui. Lui, certes, il n'y manquera pas, dit Rabourdin. Il y a du tigre chez lui. Il aime à lécher le sang de la blessure qu'il a faite. Mon pauvre ami, reprit sa femme en lui prenant la main. Je ne sais pas comment l'homme qui pouvait concevoir une si belle réforme n'a pas vu qu'elle devait être communiquée à personne. C'est de ces idées qu'un homme garde dans sa conscience, car lui seul peut les appliquer. Il fallait faire dans ta sphère comme Napoléon dans la sienne. Il s'est plié, tordu, il a rampé. Oui, Bonaparte a rampé. Pour devenir général en chef, il a épousé la maîtresse de Barras. Il fallait attendre, se faire nommer député, suivre les mouvements de la politique, tantôt au fond de la mer, tantôt sur le dos d'une lame, et comme M. de Villèle, prendre la devise col tempo, tout vient à point pour qui sait attendre. Cet orateur a visé le pouvoir pendant 7 ans, et a commencé en 1814 par une protestation contre la charte à l'âge où tu te trouves aujourd'hui. Voilà la faute, tu t'es subordonné quand tu es fait pour ordonner. » L'arrivée du peintre Schinner imposa silence à la femme et au mari que ses paroles rendirent songeurs. « Cher ami, dit le peintre en serrant la main à l'administrateur, le dévouement d'un artiste est bien inutile, mais dans ces circonstances nous sommes fidèles, nous autres. J'ai acheté le journal du soir, baudoyé, nommé directeur et décoré de la croix de la Légion d'honneur. Je suis le plus ancien et j'ai 24 ans de service, dit en souriant Rabourdin. Je connais assez monsieur le comte de Sérisy, le ministre d'État. Si vous voulez l'employer, je puis l'aller voir, dit Schinner. Le salon s'emplit des personnes à qui les mouvements administratifs étaient inconnus. Du Bruel ne vint pas. Madame Rabourdin redoubla de gaieté, de grâce, comme le cheval qui, blessé dans la bataille, trouve encore des forces pour porter son maître. Elle est bien courageuse, dirent quelques femmes qui furent charmantes pour elle en la voyant dans le malheur. Elle a eu cependant bien des attentions pour des Lupeaulx, dit la baronne du Châtelet à la vicomtesse de Fontaine. Croyez-vous que ? Demanda la vicomtesse. Mais monsieur Rabourdin aurait au moins eu la croix, dit madame de Caen en défendant son amie. Vers 11h, des Lupeaulx apparut, et l'on ne peut le peindre qu'en disant que ses lunettes étaient tristes et ses yeux gais. Mais le verre enveloppait si bien les regards qu'il fallait être physionomiste pour découvrir leur expression diabolique. Il alla serrer la main à Rabourdin qui ne put se dispenser de la lui laisser prendre. « Nous avons à causer ensemble, lui dit-il, en allant s'asseoir auprès de la belle Rabourdin qui le reçut à merveille. « Eh, fit-il en lui jetant un regard de côté, vous êtes grande et je vous trouve, comme je vous imaginais, sublime dans la déroute. Savez-vous qu'il est bien rare à une personne supérieure de répondre à l'idée qu'on se fait d'elle ? La défaite ne vous accable donc pas ? Vous avez raison, nous triompherons, lui dit-il à l'oreille. Votre sort est toujours entre vos mains tant que vous aurez pour allié un homme qui vous adore. Nous tiendrons conseil. Mais Baudoyer est-il nommé, lui demanda-t-elle. Oui, dit le secrétaire général. Est-il décoré? Pas encore, mais il le sera. Eh bien, vous ne connaissez pas la politique. Pendant que cette soirée semblait éternelle à Madame Rabourdin, il se passait à la place royale une de ces comédies qui se jouent dans 7 salons à Paris lors de chaque changement de ministère. Le salon des Saillards était plein. Monsieur et Madame Tronson arrivèrent à 8 heures. Madame Tronson embrassa Madame Baudoyer, née Saillard. Monsieur Bataille, capitaine de la garde nationale, vint avec son épouse et le curé de Saint-Paul. « Monsieur Baudoyer, dit Madame Tronson, je veux être la première à vous faire mon compliment. On a rendu justice à vos talents. Allons, vous avez bien gagné votre avancement. »« Vous voilà directeur, dit Monsieur Tronson en se frottant les mains. C'est très flatteur pour le quartier. »« Et l'on peut bien dire que c'est sans intrigue, s'écria le père Saillard. Nous ne sommes pas intrigants, nous autres. » L'oncle Mitral se frotta le nez en souriant. Il regarda sa nièce Élisabeth qui causait avec Gigonnet. Falex ne savait que penser de l'aveuglement du père Saillard et de Baudoyer. Messieurs Dutoc, Bissieu, Dubruel, Godard et Colville, nommés chefs, entrèrent. « Quelle boule, dit Bissieu à Dubruel, quelle belle caricature si on les dessinait sous forme de raies, de dorades et de claquards dansant une sarabande. »« Monsieur le directeur, dit Colville, je viens vous féliciter, ou plutôt nous nous félicitons nous-mêmes de vous avoir à la tête de la direction, et nous venons vous assurer du zèle avec lequel nous coopérerons à vos travaux. » Monsieur et Madame Baudoyer, père et mère du nouveau directeur, étaient là jouissant de la gloire de leur fils et de leur belle-fille. L'oncle Bidault, qui avait dîné au logis, avait un petit regard frétillant qui épouvanta Bissieu. « En voilà un, dit l'artiste à Dubruel en montrant Gigonnet, qui peut faire un personnage de votre ville. Qu'est-ce que savant, un chinois pareil devrait servir d'enseigne aux deux magots ? Et quelle redingote! Je croyais qu'il n'y avait que Poiret capable d'en montrer une semblable après 10 ans d'exposition publique aux intempéries parisiennes. Baudoyer est magnifique, dit Dubruel. Étourdissant, répondit Bissieu. Messieurs, leur dit Baudoyer, voici mon oncle propre, Monsieur Mitral, et mon grand-oncle par ma femme, Monsieur Bidault. Gigonnet et Mitral jetèrent sur les 3 employés un de ces regards profonds où éclatait la couleur de l'or et qui firent leur impression sur les 2 rieurs. Hein, dit Bissieu en s'en allant sous les arcades de la place royale, avez-vous bien examiné les 2 oncles? 2 exemplaires de Shylock. Ils vont, je le parie, à la halle placer leurs écus à 100% par semaine. Ils prêtent sur gage, ils vendent des habits, des galons, des fromages, des femmes et des enfants. Ils sont arabes, juifs, génois, grecs, genevois, lombards et parisiens, nourris par une louve et enfantés par une turque. Je crois bien, l'oncle Mitral a été huissier, dit Godard. « Voyez-vous, dit Dubruel. Je vais aller voir tirer la pierre, reprit Bissieu, mais je voudrais bien étudier le salon de Monsieur Rabourdin. Vous êtes bien heureux de pouvoir y aller, Dubruel. Moi, dit le vaudeviliste, que voulez-vous que j'y fasse? Ma figure ne se prête pas aux compliments de condoléances. Et puis c'est bien vulgaire aujourd'hui d'aller faire queue chez les gens destitués. » À minuit, le salon de Madame Rabourdin était désert. Il ne restait plus que 2 ou 3 personnes, des lupeaux et les maîtres de la maison. Quand Schinner, Madame et Monsieur Octave de Caen furent partis, des lupeaux se leva d'un air mystérieux, se plaça le dos à la pendule et regarda tour à tour la femme et le mari. « Mes amis, leur dit-il, rien n'est perdu, car le ministre et moi, nous vous restons. » Dutoc, entre 2 pouvoirs, a préféré celui qui lui paraissait le plus fort. Il a servi la grande aumônerie et la cour, il m'a trahi, c'est dans l'ordre. Un homme politique ne se plaint jamais d'une trahison. Seulement, Baudoyer sera destitué dans 2 mois, et replacé, sans doute, à la préfecture de police, car la grande aumônerie ne l'abandonnera pas. Et il fit une longue tirade sur la grande aumônerie, sur les dangers que courait le gouvernement à s'appuyer sur l'Église, sur les jésuites, etc. Mais il n'est pas inutile de faire observer que la cour et la grande aumônerie, à laquelle des journaux libéraux accordaient une influence énorme sur l'administration, s'étaient très peu mêlés du sieur Baudoyer. Ces petites intrigues se mouraient dans la haute sphère devant les grands intérêts qui s'y agitaient. Si quelques paroles furent arrachées par l'importunité du curé de Saint-Paul et de M. Gaudron, la sollicitation s'était tue à la première observation du ministre. Les passions seules faisaient la police de la congrégation en se dénonçant les unes les autres. Le pouvoir occulte de cette association, bien permise en présence de l'effrontée société de la doctrine intitulée « Aide-toi, le ciel t'aidera », ne devenait formidable que par l'action dont la dotait gratuitement les subordonnés en s'en menaçant à l'envi. Enfin, les calomnies libérales se plaisaient à configurer la grande aumônerie en un géant politique, administratif, civil et militaire. La peur se fera toujours des idoles. En ce moment, Baudoyer croyait à la grande aumônerie, tandis que la seule aumônerie qui l'avait protégée siégeait au café Thémis. Il est à certaines époques des noms, des institutions, des pouvoirs à qui l'on prête tous les malheurs, à qui l'on dénie leurs talents et qui servent de raison coefficiente aux sots. De même que M. de Talleyrand fut censé saluer tout événement par un bon mot, de même, en ce moment de la Restauration, la grande aumônerie faisait et défaisait tout. Malheureusement, elle ne faisait ni ne défaisait rien. Son influence n'était entre les mains ni d'un cardinal de Richelieu ni d'un cardinal Mazarin, mais entre les mains d'une espèce de cardinal de Fleury qui, timide pendant 5 ans, n'osa que pendant 1 jour et osa mal. Plus tard, la doctrine fit impunément à Saint-Méry plus que Charles X ne prétendit faire en juillet 1830. Sans l'article sur la censure si sottement mis dans la nouvelle charte, le journalisme aurait eu son Saint-Méry aussi. La branche cadette aurait légalement exécuté le plan de Charles X. Restez chef de bureau sous Baudoyer, ayez ce courage, reprit des Lupeaux, soyez un véritable homme politique, laissez les pensées et les mouvements généreux de côté, renfermez-vous dans vos fonctions, ne dites pas un mot à votre directeur, ne lui donnez pas un conseil, ne faites rien sans son ordre. En 3 mois, Baudoyer quittera le ministère, ou destitué, ou déporté sur une autre plage administrative. Il ira à la maison du roi, peut-être. Il m'est arrivé 2 fois dans ma vie d'être ainsi couché sous une avalanche de niaiseries. J'ai laissé passer. Oui, dira Bourdin, mais vous n'étiez pas calomnié, atteint dans votre honneur, compromis. Ha ha ha, dit des Lupeaux en interrompant le chef de bureau par un rire homérique. Mais c'est là le pain quotidien de tout homme remarquable dans le beau pays de France. Il y a 2 manières de prendre la chose. Ou d'être au-dessous, il faut plier bagages et s'en aller planter des choux. Ou d'être au-dessus et marcher sans crainte, sans même tourner la tête. Je n'ai pour moi qu'une seule manière de dénouer le nœud coulant que l'espionnage et la trahison m'ont mis autour du cou, reprit Rabourdin, c'est de m'expliquer immédiatement avec le ministre. Et si vous m'êtes aussi sincèrement attaché que vous le dites, vous pouvez me mettre face à face avec lui demain. Vous voulez lui expliquer votre plan d'administration ? Rabourdin inclina la tête. Eh bien, confiez-moi vos plans, vos mémoires, et je vous jure qu'il y passera la nuit. Allons-y donc, dira Bourdin, car c'est bien le moins qu'après 6 ans de travaux, j'ai la jouissance de 2 ou 3 heures pendant lesquelles un ministre du roi sera forcé d'applaudir à tant de persévérance. Mis par la ténacité de Rabourdin sur un chemin sans buisson où la ruse put s'abriter, des Lupeaux hésita pendant un moment et regarda Madame Rabourdin en se demandant qui triomphera de ma haine pour lui ou de mon goût pour elle. « Si vous n'avez pas de confiance en moi, dit-il au chef de bureau après une pause, je vois que vous serez toujours pour moi l'homme de votre note secrète. Adieu, madame. » Madame Rabourdin salua froidement. Célestine et Xavier se retirèrent chacun de leur côté sans se rien dire tant ils étaient oppressés par le malheur. La femme songeait à l'horrible situation où elle se trouvait vis-à-vis de son mari. Le chef de bureau, qui se résolvait à ne plus remettre les pieds au ministère et à donner sa démission, était perdu dans l'immensité de ses réflexions. Il s'agissait pour lui de changer de vie et de prendre une voie nouvelle. Il resta toute la nuit devant son feu sans apercevoir Célestine qui vint à plusieurs reprises sur la pointe du pied dans ses vêtements de nuit. « Puisque je dois aller une dernière fois au ministère pour retirer mes papiers et mettre Baudoyer au fait des affaires, tentons-y l'effet de ma démission, se dit-il. » Il rédigea sa démission, médita les expressions de la lettre dans laquelle il l'a mis, et que voici. « Monseigneur, j'ai l'honneur d'adresser à votre Excellence ma démission sous ce pli, mais j'ose croire qu'elle se souviendra de m'avoir entendu lui dire que j'avais remis mon honneur entre ses mains et qu'il dépendait d'une explication immédiate. Cette explication, je l'ai vainement implorée, et aujourd'hui peut-être serait-elle inutile alors qu'un fragment de mes travaux sur l'administration, surpris et défiguré, court dans les bureaux et mal interprété par la haine et me force à me retirer devant la tacite réprobation du pouvoir. Votre Excellence, le matin où je voulais lui parler, a pu penser qu'il s'agissait d'avancement quand je ne songeais qu'à la gloire de son ministère et au bien public. Il m'importait de rectifier ses idées à cet égard. Suivez les formules de respect. Il était 7h30 quand cet homme eut consommé le sacrifice de ses idées car il brûla tout son travail. Fatigué par ses méditations et vaincu par ses souffrances morales, il s'assoupit la tête appuyée sur son fauteuil. Il fut réveillé par une sensation bizarre. Il trouva ses mains couvertes des larmes de sa femme agenouillée devant lui. Célestine était venue lire la démission. Elle avait mesuré l'étendue de la chute. Elle et Rabourdin, ils allaient être réduits à 4 000 livres de rente. Elle avait supputé ses dettes, elle montait à 32 000 francs. C'était la plus ignoble de toutes les misères. Et cet homme si noble et si confiant ignorait l'abus qu'elle s'était permis de la fortune confiée à ses soins. Elle sanglotait à ses pieds, belle comme Madeleine. « Le malheur est complet, dit Xavier dans son effroi. Je suis déshonoré au ministère et déshonoré. » L'éclair de l'honneur pur scintilla dans les yeux de Célestine. Elle se dressa comme un cheval effarouché, jeta sur Rabourdin un regard foudroyant. « Moi, lui dit-elle sur deux tons sublimes. Suis-je donc une femme vulgaire? Ne serais-tu pas nommée si j'avais failli? Mais, reprit-elle, il est plus facile de croire à cela qu'à la vérité. « Qu'y a-t-il? Dit Rabourdin. « Tout en deux mots, répondit-elle, nous devons 30 000 francs. » Rabourdin saisit sa femme par un geste fou et l'assit sur ses genoux avec joie. « Console-toi, ma chère, dit-il avec un son de voix où perçait une adorable bonté qui changea l'amertume de ses larmes en je ne sais quoi de doux. Moi aussi j'ai fait des fautes. J'ai travaillé fort inutilement pour mon pays, ou du moins j'ai cru pouvoir lui être utile. Maintenant je vais marcher dans un autre sentier. Si j'avais vendu des épices, nous serions millionnaires. Eh bien, faisons-nous épicier. Tu n'as que 28 ans, mon ange. Eh bien, dans 10 ans, l'industrie t'aura rendu le luxe que tu aimes et auquel nous renoncerons pendant quelques jours. Moi aussi, cher enfant, je ne suis pas un mari vulgaire. Nous vendrons notre ferme, elle a depuis 7 ans gagné de valeur, cette plus-value et notre mobilier paieront mes dettes. Elle embrassa son mari 1000 fois dans un seul baiser pour ce mot généreux. Nous aurons, reprit-il, 100 000 francs à employer dans un commerce quelconque. Avant un mois, j'aurai choisi quelques spéculations. Le hasard qui a fait rencontrer un Martin Falex à un saillard ne nous manquera pas. Attends-moi pour déjeuner, je reviendrai du ministère, libre de mon collier de misère. Célestine serra son mari dans ses bras avec une force que n'ont point les hommes dans leurs moments les plus encolérés, car la femme est plus forte par le sentiment que l'homme n'est fort par sa puissance. Elle pleurait, riait, sanglotait, parlait tout ensemble. Quand à 8 heures, Rabourdin sortit, la portière lui remit les cartes railleuses de Baudoyer, de Bissieu, de Godard et autres. Néanmoins, il se rendit au ministère et y trouva Sébastien à la porte qui le supplia de ne point venir dans les bureaux où il courait une infâme caricature sur lui. « Si vous voulez m'adoucir l'amertume de la chute, apportez-moi ce dessin, dit-il, car je vais porter ma démission moi-même à Ernest de la Brière afin qu'elle ne soit pas dénaturée en suivant la voie administrative. J'ai mes raisons en vous demandant la caricature. » Quand, après s'être assuré que sa lettre était dans les mains du ministre, Rabourdin revint dans la cour, il trouva Sébastien en larmes qui lui présenta la lithographie dont voici le principal trait, rendu par ce léger croquis. « Il y a là beaucoup d'esprit, dit Rabourdin en montrant au surnuméraire un front serein, comme le fut celui du sauveur quand on lui mit sa couronne d'épines. Il entra dans les bureaux d'un air calme et alla d'abord chez Baudoyer pour le prier de venir dans le cabinet de la division recevoir de lui les instructions relatives aux affaires que ce routinier devait désormais diriger. « Dites à monsieur Baudoyer que ceci ne souffre pas de retard, ajouta-t-il devant Godard et les employés. « Ma démission est entre les mains du ministre, et je ne veux pas rester 5 minutes de plus qu'il ne le faut dans les bureaux. » En apercevant Bissieu, Rabourdin alla droit à lui, lui montra la lithographie, et, au grand étonnement de tous, il lui dit « N'avais-je pas raison de prétendre que vous étiez un artiste? Il est seulement dommage que vous ayez dirigé la pointe de votre crayon contre un homme qui ne pouvait être jugé ni de cette manière ni dans les bureaux. Mais on rit de tout en France, même de Dieu. » Puis il entraîna Baudoyer dans l'appartement de Feu la Billardère. À la porte se trouvaient Félion et Sébastien, les seuls qui, dans ce grand désastre particulier, osassent rester ostensiblement fidèles à cet accusé. Rabourdin, apercevant les yeux de Félion humides, ne put s'empêcher de lui serrer la main. « Monsieur, dit le bonhomme, si nous pouvons vous être utiles à quelque chose, disposez de nous. « Entrez donc, mes amis, leur dit Rabourdin avec une grâce noble. Sébastien, mon enfant, écrivez votre démission et envoyez-la par Laurent. Vous devez être enveloppé dans la calomnie qui m'a renversé. Mais j'aurai soin de votre avenir. Nous ne nous quitterons plus. » Sébastien fondit en larmes. Monsieur Rabourdin s'enferma dans le cabinet de Feu la Billardère avec Monsieur Baudoyer et Félion l'aida à mettre le nouveau chef de division en présence de toutes les difficultés administratives. À chaque dossier que Rabourdin expliquait, à chaque carton ouvert, les petits yeux de Baudoyer devenaient grands comme des soucoupes. « Adieu, monsieur, lui dit enfin Rabourdin d'un air à la fois solennel et railleur. » Sébastien avait pendant ce temps-là fait un paquet des papiers appartenant au chef de bureau et les avait emportés dans un fiacre. Rabourdin passa par la grande cour du ministère où tous les employés étaient aux fenêtres et y attendit un moment les ordres du ministre. Le ministre ne bougea pas.